100 mots de tête, la radio du j'aime.
La radio du j'aime, 100 mots de tête, la radio qui dit ce qu'elle a dans la tête.
Venez nous écouter, on a plein de choses à vous raconter.
Bonjour et bienvenue sur 100 mots de tête pour ce deuxième épisode de J'ai la mémoire qui flanche.
La mémoire est un processus fondamental qui permet de conserver et de récupérer des informations. Elle est essentielle pour toute forme d'apprentissage, de prise de décision et d'interaction sociale. Sans mémoire, nous serions incapables de nous souvenir de nos expériences passées, de reconnaître un visage, de nous situer dans notre environnement ou de nous projeter dans l'avenir. La mémoire permet de définir notre identité et de donner un sens à notre existence.
Au GEM, nous sommes nombreux à avoir des troubles de la mémoire et chacun gère ça à sa manière. Il y a ceux qui se promènent avec 2 kilos de cahiers et d'agenda et qui notent tout pour mieux se souvenir. Il y a ceux qui observent et écoutent en silence le temps de faire se correspondre un visage et un nom. Il y a ceux qui semblent toujours un peu perdus et qui ont l'air de se dire parfois « Mais qu'est-ce que je fous là déjà ?» Il y a ceux qui profitent de l'instant présent tout en sachant qu'ils ne s'en souviendront plus. De toute façon, c'est comme ça.
Pour mieux comprendre comment fonctionne notre mémoire, nous recevons aujourd'hui Sophie Portra, maîtresse de conférences en psychologie, et Inès Leproux, doctorante en troisième année de thèse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre travail et de vos recherches?
Oui, bien sûr. Merci déjà de cette invitation. Je suis personnellement très heureuse d'être ici et merci aussi d'accueillir Inès. Donc moi, je suis Sophie Portra, je suis maître de conférences en psychologie, comme vous l'avez dit, et je m'intéresse à la mémoire et en particulier à la mémoire de travail. Donc je fais de la recherche dans un laboratoire sur le campus qui s'appelle le laboratoire de psychologie et neurocognition, et j'enseigne la psychologie à des étudiants qui sont dans un IUT pour devenir des éducateurs spécialisés. Et donc, au sein du département carrière sociale, je donne des cours à ces étudiants de psychologie sur la mémoire, et ils apprennent ce que c'est que la mémoire et ce que c'est que la psychologie en général à des futurs professionnels éducateurs spécialisés. Et c'est une des particularités de mon parcours, puisque beaucoup de mes collègues enseignent plus en fac de psycho à des futurs psychologues. Voilà. Donc j'ai deux parties dans mon métier, une partie qui concerne la recherche sur la mémoire, dont on va parler ensemble, et puis une autre partie où j'enseigne à des éducateurs.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis aussi ravie d'être avec vous cet après-midi. Et donc effectivement, moi je m'appelle Inès Leproux et donc je suis en thèse en psychologie dans le même laboratoire que Sophie, donc dans un laboratoire de psychologie à l'Université de Grenoble. Et donc moi, je travaille aussi sur la mémoire de travail. Je m'intéresse un peu à quelles stratégies on peut mettre en place pour essayer de retenir les informations en mémoire. Et la thèse, en fait, c'est je suis en train de me former à la recherche. Donc j'apprends comment est-ce qu'on fait de la recherche. Et pour ça, j'applique ça à la mémoire de travail.
Comment ça marche la mémoire? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je mémorise une information? Et qu'est-ce qui se passe quand je m'en souviens?
C'est une vaste question qui renvoie à ce phénomène de ce que c'est que la mémoire. Donc la question, c'est comment ça marche la mémoire? La mémoire, en fait, c'est un processus en plusieurs sous-étapes. D'abord, on dit qu'on encode l'information. Donc cette information, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est des choses qu'on a envie de retenir, c'est l'information qui est dans notre environnement. On l'encode, ça veut dire qu'elle va rentrer dans notre système qu'on appelle le système cognitif. Donc c'est une première phase, c'est l'encodage. Si l'information elle n'est pas encodée, on ne peut pas la mémoriser. Dans la deuxième étape, il y a une étape dite de maintien de l'information. Donc c'est une étape qui peut être plus ou moins longue. Et c'est l'étape pendant laquelle on retient l'information. L'information, elle reste dans notre tête. Et la dernière étape, c'est une étape où l'on récupère l'information, où on va retrouver cette information qu'on a encodée et qu'on a maintenue. Donc vous voyez que pour pouvoir récupérer une information in fine, quand on veut se souvenir de quelque chose, il faut déjà l'avoir bien encodée. Il faut aussi l'avoir maintenue pendant tout le temps, depuis qui sépare le moment où on récupère et le moment où on a encodé, et ensuite, finalement, récupérer peut-être l'information. Donc il y a plusieurs sous-étapes. Je ne sais pas si ça répond à votre question du fonctionnement de la mémoire.
J'ai suivi de la rééducation mnésique, on peut dire comme ça, pendant longtemps. Et il y a une dame qui m'a fait bosser là-dessus. Elle m'avait expliqué que ma mémoire, c'était comme dans un placard avec plein de tiroirs et que toutes les informations venaient dans les tiroirs. C'était tout bien rangé, mais c'était fermé à clé les tiroirs et... souvent, j'arrivais pas à retrouver la clé pour ouvrir le tiroir. Quand je retrouvais la clé, je pouvais ouvrir le tiroir et toutes les infos me revenaient qui étaient rangées dans le... Mais la plupart du temps, je trouvais pas la clé, donc...
Oui, exactement. Des fois, on parle de retrouver le chemin. Je sais que je sais, mais c'est comme quand on a le mot sur le bout de la langue. Je sais que je le sais, mais juste, j'arrive pas à retrouver comment j'accède à l'information. Pourtant, je suis sûre qu'elle est là. Exactement.
On parle souvent de la mémoire à court terme, de la mémoire à long terme ou de la mémoire procédurable. Quels sont les différents types de mémoire et comment ça fonctionne ?
Effectivement, on a ces différents types de mémoire qu'on distingue. Du coup, on a la mémoire qu'on appelle plutôt la mémoire à court terme. En fait, c'est la mémoire qu'on utilise au quotidien. Par exemple, là, pour comprendre ce que je raconte, il faut que vous enregistriez les mots que je vous dis. Et donc ça, c'est la mémoire qu'on utilise sur le moment. Si je vous demande de retenir un numéro de téléphone avant d'aller le noter... ça, on va devoir le répéter, mais dès qu'on l'a noté, c'est bon. Donc ça, c'est notre mémoire à court terme qu'on utilise sur le moment. Mais après, comme vous le disiez, il y a aussi la mémoire à long terme, et ça, c'est toute la mémoire des choses que je connais, que j'ai vécues avant. Donc si je vous demande où vous habitiez quand vous étiez petit, c'est de la mémoire à long terme très ancienne, mais si je vous demande ce que vous avez mangé ce midi, c'est déjà de la mémoire à long terme aussi. C'est déjà la mémoire du passé, même si c'est le passé d'il n'y a pas très longtemps. Et comme vous le disiez, dans la mémoire à long terme, on fait encore des distinctions. On distingue la mémoire plutôt procédurale, où ça, c'est la mémoire des gestes. Par exemple, comment on fait du vélo, comment on marche, c'est très dur à expliquer. Comment on dit, alors pour faire du vélo, il faut que je monte sur le vélo. J'arrive pas vraiment à l'expliquer avec des mots. Pourtant, je sais faire, je sais marcher. Et donc ça, c'est la mémoire procédurale, ou c'est plutôt les gestes. Mais après, dans la mémoire à long terme, on a aussi ce qu'on appelle les mémoires plutôt verbales, c'est des choses qu'on peut raconter. Et du coup, dernière distinction dans cette mémoire à long terme, on en fait deux. Il y a la mémoire qu'on dit épisodique, et ça, c'est tous vos souvenirs, tout ce que vous avez vécu. Si vous pouvez me dire « Ah oui, je me souviens, je me revois à Noël, j'ai mangé ça », ça, c'est j'ai mangé telle dinde accompagnée d'haricots, etc. Ça, c'est la mémoire de vos souvenirs. Et par contre, il y a aussi une mémoire de vos connaissances. Par exemple, vous savez que Paris est la capitale de la France. Par contre, vous ne pouvez pas me dire quand est-ce que vous l'avez appris. Souvent, juste vous le savez, mais vous ne vous en rappelez pas de « Ah oui, je me rappelle, ce jour-là, j'ai appris que Paris était la capitale de la France. » Et donc ça, c'est deux mémoires à long terme. Mais d'un côté, de mes connaissances, ce que je sais, et de l'autre côté, de mes souvenirs, ce que j'ai vécu, ce que je me rappelle ou je peux faire des images dans ma tête. Et je crois que c'est les différentes sortes de mémoires.
Cailleureau du sommeil.
Le sommeil, il est extrêmement important pour la mémoire. Le sommeil, c'est un moment pendant lequel on dit qu'on va consolider les informations qui sont rentrées dans notre système juste avant le sommeil en particulier ou pendant la journée qui a précédé. Donc le sommeil, c'est un rôle de consolidateur et on a même montré, il y a certaines études assez récentes qui montrent que le sommeil participe aux apprentissages. Quand on fait apprendre des choses à des étudiants, par exemple, si l'on veut, en tout cas c'est des conseils qu'on donne aujourd'hui à des étudiants qui veulent apprendre des cours, pour mieux se souvenir d'un cours, il vaut mieux l'avoir appris la veille au soir, puis le revoir le lendemain matin, et encore une fois le soir avant, laisser passer en tout cas des nuits de sommeil pour faciliter la récupération.
Ce que je peux rajouter, c'est un peu ce qui se passe dans le cerveau. Il y a des études qui peuvent aller... Aujourd'hui, on a les moyens d'aller voir un peu ce qui se passe dans le cerveau avec ce qu'on appelle l'IRM, par exemple. C'est pour voir un peu comment le cerveau il s'active. Et il y a des études qui montrent que, en fait, pendant le sommeil, c'est comme si notre cerveau il rejouait certaines choses qu'on avait vécues la journée, donc ce qu'on doit apprendre. Et donc ça, le fait de rejouer, comme le disait Sophie, ça permet d'encoder, de consolider le souvenir, qu'il soit plus fort. Et ça, ça a été montré par des expériences où ils faisaient apprendre des listes de mots à des personnes. Et certaines personnes, elles dormaient la nuit, normalement. Et d'autres personnes, on les privait de sommeil. Et pour une nuit. Et après, le lendemain, on allait voir de quoi elle se rappelait parmi la liste de mots. Et on observe que les gens qui ont dormi, ils se rappellent de beaucoup plus de mots. Donc ça semble montrer qu'effectivement, le sommeil il permet de faciliter l'apprentissage, la mémoire.
Quel est le lien entre mémoire et émotion ?
On sait, vous avez raison, on sait qu'il y a un lien très fort entre les émotions et la mémoire. Ça peut être dans plusieurs sens. Quand on a des fortes émotions, ça peut être des souvenirs qui s'encodent très très fort dans la mémoire. Je pense que vous vous rappelez d'événements très marquants qui ont généré beaucoup de joie ou beaucoup de tristesse, et ça, on a tendance à s'en rappeler très longtemps. Donc effectivement, les émotions, ça joue sur la mémoire dans le sens où c'est des choses qui sont tellement marquantes qu'on s'en rappelle beaucoup et longtemps. Et après, il peut y avoir aussi l'effet des émotions où du coup, quand c'est, si c'est une émotion un peu plus qui dure dans le temps, si on est un peu anxieux pendant longtemps, par exemple, et bah, par contre, ça peut venir un peu altérer la mémoire. Parce que si on est un peu anxieux, ça veut dire que des fois, on a des pensées dans nos têtes qui viennent, qui ne sont pas très sympas. Et donc, du coup, on a moins d'énergie pour être tourné vers l'extérieur, pour être tourné vers ce qu'on est en train de vivre. Notre énergie, elle est plus prise par nos émotions qui tournent dans notre tête. Et donc là, quand c'est comme ça, et bah, du coup, ça peut un peu altérer la mémoire dans le sens où on est moins concentré sur les événements de l'extérieur.
Comment on fait quand on a un souvenir dont on est sûr, mais qui ne veut pas revenir? Moi, je suis en conflit avec moi. J'ai des souvenirs que je cherche, parce que je sais qu'ils vont arriver, mais ces souvenirs ne reviennent pas.
Vous savez qu'ils sont arrivés non pas parce que votre mémoire le dit, mais parce que des personnes autour de vous vous disent qu'il s'est passé ça. Et vous ne pouvez pas vous le retrouver, le faire revivre dans votre esprit. Et ce que vous n'arrivez pas à récupérer, c'est l'événement en lui-même tel qu'il a eu lieu. Mais vous arrivez aujourd'hui par contre peut-être à réimaginer l'événement comme on vous le raconte ou pas. Ma question c'est, est-ce que du coup vous avez un nouveau souvenir de cet événement en lien avec les informations qu'on a pu vous donner sur cet événement ?
C'est un événement qui a eu lieu en 1999.
Ouais.
Donc
il y a longtemps.
Ça ne nous rajeunit pas, ouais.
Non.
Et le fait d'en avoir parlé avec des gens avec qui j'étais, ou je n'ai rien, quoi. Ouais. Et c'est l'enfer, en fait.
Comment ça se fait qu'à un certain âge, on ne se souvient plus de rien ? Notre petite enfance, quand on était bébé, on ne se souvient plus de rien du tout.
La question de la petite enfance, ce n'est pas que quand on a un certain âge. Il existe ce qu'on appelle une amnésie infantile. La toute petite enfance, le commun des mortels, n'importe qui, tout le monde, ne s'en souvient pas, ne sait pas le raconter. La toute petite enfance, avant 3 ans, des fois même à peu près 3 ans. Hein. On n'a pas de souvenir de notre petite enfance parce que y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ça, mais c'est tout à fait naturel. Les souvenirs dont on se souvient quelquefois, vous allez vous dire, mais si, moi je me souviens, ou quelqu'un va vous dire, je me souviens très bien que à l'âge de 2 ans, il s'est passé ça chez moi, etc. Quand on se souvient de ça, c'est souvent parce que quelqu'un nous l'a raconté et qu'en fait on s'est fait un souvenir de ce qu'on nous a raconté, mais l'événement en lui-même, en général, dans la toute petite enfance, il est pas possible de le récupérer. Ce qui est certain et ce qu'il faut bien qu'on ait en tête, c'est que ce qu'on mémorise, ce que vous mémorisez, ce que je mémorise, c'est pas l'image exacte de ce que vous vivez ou de ce que je vis. C'est pas une photographie. On ne mémorise pas l'exactitude de notre environnement. On se recrée, on se reconstruit des souvenirs, et ces souvenirs, ils se reconstruisent systématiquement à mesure qu'on les mobilise. Donc si justement vous faites appel très fréquemment à un même souvenir, et que quelqu'un vous raconte des choses sur ce souvenir-là, vous allez de toute façon modifier le souvenir de l'événement tel qu'il a eu lieu à l'instant où vous l'avez vécu. Même avec nos propres pensées, on peut modifier des souvenirs, c'est ce qu'on appelle des faux souvenirs.
Si vous voulez, il y a une très belle illustration de ça qui est proposée par un chercheur marseillais qui s'appelle Pascal Roulet. Il est marseillais, donc il a le droit de faire des blagues sur les Marseillais. Et donc, il raconte qu'un jour, c'est un pêcheur donc, qui va pêcher. Et aujourd'hui, il a un poisson de 10 cm. Donc, c'est une prise OK. C'est quand même un joli poisson. Et donc, le soir, il va au bar avec ses amis. Et il leur raconte la prise de sa prise du jour, mais vu qu'il est un peu marseillais, il exagère. Donc il va dire à ses amis, « Oh, vous savez, aujourd'hui, j'ai pêché un poisson qui faisait 15 cm. » Il raconte, il ajoute les 5 cm pour un peu se vanter. Sauf qu'en réévoquant ce souvenir, il est en train de le modifier un peu. Donc là, quand il raconte à ses amis, « J'ai pêché un poisson de 15 cm », il est en train de réencoder son souvenir dans sa mémoire avec un poisson de 15 cm. La semaine d'après, il va voir sa famille et il dit « Oh, la semaine dernière, je suis allé à la pêche et j'ai pêché un poisson. » Il se rappelle 15 cm, mais il est un peu marseillais, donc il exagère, de 20 cm, etc. Et donc ça illustre ce que disait Sophie, que le fait qu'à chaque fois qu'on raconte le souvenir, en fait, sans s'en apercevoir, des fois les Marseillais le font exprès, mais aussi non, sans s'en apercevoir, on introduit des petites modifications, mais que du coup, on enregistre dans notre mémoire, on encode, et petit à petit, le souvenir, il peut se modifier. C'est pour ça que 10 ans après, on n'est plus d'accord sur où on est parti en vacances en 2010 avec nos proches, et pourtant, on est tous persuadés d'avoir raison.
Quels sont les liens entre la mémoire et les 5 sens ?
Le souvenir, il est multimodal. C'est-à-dire que c'est grâce à ces 5 sens qu'on mobilise quand on encode qu'on va aussi mémoriser des informations qui sont multimodales. Ce sont les portes d'entrée de la mémoire. C'est vos capteurs. C'est ce qui vous permet de faire rentrer ensuite toutes les informations comme des souvenirs, comme des traces mnésiques.
Des fois, il y en a qui disent « Oui, moi, j'ai plus une mémoire visuelle, j'ai plus une mémoire auditive ou quoi. » Et ce qu'on a tendance à montrer, en fait, c'est que le mieux, c'est plus il y a de sens impliqués, plus on mémorise. Donc si on est en train de... Si on veut apprendre quelque chose ou si on veut se souvenir de quelque chose et qu'il y a et du toucher, et de l'odeur, et de l'audition, et de la vision associée, et bien là, on est au top et sans doute qu'on s'en rappellera. Et donc souvent, le mieux, c'est plus il y a de sens associés, plus le souvenir, il sera fort.
Existe-t-il des différences entre les individus, les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées, les génies, les étourdis? Si oui, quelles sont les causes?
Clairement, il y a des différences entre les individus dans la manière dont on mémorise, dont on est en capacité de mémoriser. Vous avez parlé de plusieurs types d'individus, ne serait-ce qu'entre quand on est un enfant, quand on est un adulte et quand on vieillit, on montre dans nos études, et en particulier même d'ailleurs dans la thèse de Ness, on montre qu'il y a par exemple des capacités mnésiques qui diminuent avec le vieillissement. De même que les enfants mémorisent moins que des adultes, en pleine force de l'âge, j'ai envie de dire. Après, quand vous dites Il y avait des génies, des étourdis. Bon, on ne les qualifie pas de génies ou d'étourdis, mais on a aussi des études qui étudient effectivement des populations qui ne sont pas tout venantes. On dit voilà, des populations, par exemple des enfants, vous avez peut-être entendu parler, à haut potentiel. C'est peut-être ce que vous qualifiez de génie ici, ou des étourdis, des personnes peut-être qui oublient plus. Il y a des différences entre les individus en termes de mémoire, clairement, et pas que entre des groupes d'individus qui sont comme ça bien étiquetés différents. Même chez la population tout venante, on ne mémorise pas tous exactement de la même manière, même si les phases de l'encodage, le fonctionnement de la mémoire est à peu près le même chez tout le monde, mais comme il y a plein de facteurs qui agissent sur l'encodage, le maintien, la récupération, on n'est pas tous exactement sur le même pied d'égalité.
Et dans ces différences, il y a aussi beaucoup l'intérêt que vous y portez. Peut-être que vous vous dites que « Ah, moi, j'ai une super bonne mémoire, je me rappelle très bien des prénoms d'un film que j'aime bien. » Par contre, les dates en histoire, alors ça, je peux les répéter 100 fois, ça rentrera jamais. Bah ça, c'est aussi en fonction de l'intérêt qu'on y porte. En fait, quelqu'un qui est passionné de papillons, il va se rappeler de tous les noms des papillons, toutes leurs caractéristiques et tout. Alors que si nous, on est moins intéressé par ça, bah finalement, c'est pas quelque chose auquel on portera beaucoup d'attention. Et donc, si on y porte moins d'attention, eh bah, on va moins bien encoder, donc moins bien consolider. Et au final, on s'en rappellera moins ou pas.
Comment ça se fait que les gens qui retiennent tout sans faire le tri, enfin qui ont du mal à faire le tri, ce qui est mon cas, ils oublient les choses qu'ils ont apprises il y a longtemps? Est-ce que la mémoire a une capacité limitée de stockage ou pas?
Oui, la mémoire, elle a une capacité limitée. La mémoire à court terme notamment, elle a une capacité limitée, c'est sûr. On n'est pas... On peut pas tout mémoriser, sauf particularités effectivement que vous venez d'évoquer. Il y a des gens qui ont des particularités cognitives qui font qu'ils mémorisent tout. C'est votre cas, c'est ce que vous dites, hein, d'accord. Et donc vous dites vous mémorisez tout ce qui se passe à l'instant T.
J'ai du mal à faire le tri dans ce qu'il faut mémoriser ou pas.
Okay.
Et j'oublie ce qui se passe avant. Ouais. Les choses du passé lointain.
Le passé lointain, par contre, vous le perdez. Je ne sais pas s'il y a un vase communicant effectivement. Franchement, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si, parce qu'on mémorise tout du présent, on doit forcément oublier le passé, comme c'est votre cas ici. J'ai pas d'éléments pour vous répondre. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'effectivement, on n'a pas une capacité illimitée. Même si on dit que théoriquement, la mémoire à long terme est illimitée, mais on voit bien qu'il y a plein d'oublis aussi. Donc, je ne sais pas trop. Voilà.
Quand j'étais adolescent, de 8 ans à 18 ans, j'avais pas du tout de mémoire. J'étais suivi par une psychologue. Elle me disait que je ne retenais rien pratiquement. C'est à partir de 18 ans, quand mon papa est parti en Espagne, que j'ai commencé à prendre de la mémoire parce qu'il a fallu que je gère un peu avec ma maman à se devenir aux besoins de la famille, une chose ou une autre. Mais c'est vrai que de 8 ans à 18 ans, j'ai fait IMP, IMPRO, et c'est vrai que je n'avais pas de mémoire.
Souvent, ce qu'on dit chez les enfants, mis à part un très gros problème dans le cerveau, on dit qu'il n'y a pas d'enfant sans mémoire. Tous les enfants, ils ont une mémoire. Mais simplement, quand on dit « moi, j'ai des problèmes de mémoire », en fait, il peut y avoir plein d'autres choses autour. Par exemple, si j'ai des problèmes d'attention, si j'ai du mal à si mon esprit part souvent ailleurs, si j'ai du mal à me focaliser sur ce que je suis en train de faire, et bah du coup, ça va être super difficile d'apprendre.
Moi, quand j'étais à l'école, comme me disait même la psy, c'était plus du dessin. Je faisais pratiquement pas les devoirs qu'on me demandait de faire, et je faisais du dessin. Et en fin de compte, c'est là qu'ils ont vu que j'avais peut-être un problème psychologique ou quelque chose au niveau du cerveau qui fonctionnait pas. Et après, c'est vrai que, comme je vous dis, moi, c'est à partir de l'âge de 18 ans que j'ai commencé à prendre de la mémoire.
Et après, ce qui peut se passer aussi, c'est que des fois, c'est le format. Quand vous avez été enfant, sans doute que vous avez appris à faire du vélo, vous avez des souvenirs, donc c'est que vous aviez une mémoire. Mais simplement, par exemple, si des fois, il y a des enfants qui ont plus de difficultés avec les lettres dans l'apprentissage de la lecture. Et donc là, quand on est à l'école, si on a du mal à lire, en fait, on va avoir plus de mal à apprendre tout le reste. Mais ce n'est pas forcément à cause de notre mémoire. C'est parce qu'il y a d'autres difficultés qui font que sous le format écrit, ce qui est beaucoup le cas à l'école, j'ai plus de mal à apprendre. Mais en soi, la mémoire sous d'autres formes peut très bien fonctionner. Par exemple, le dessin, tout à fait.
Quelles sont les différentes pathologies qui affectent la mémoire? et comment la mémoire est-elle affectée, en particulier dans la lésion cérébrale?
Alors, les différentes pathologies qui affectent la mémoire, il y en a plusieurs, beaucoup. Souvent, des fois, on peut penser déjà aux pathologies liées quand on avance dans l'âge. Donc, souvent, on pense à la maladie d'Alzheimer quand on parle de problèmes de mémoire. Souvent des premières pathologies à laquelle on pense. Et après, effectivement, donc la mémoire, c'est très relié avec donc le cerveau, et donc toutes les pathologies qui peuvent atteindre le cerveau à un moment peuvent impacter la mémoire, ou plutôt différemment les différentes sortes de mémoire, parce que toutes les pathologies vont pas avoir les mêmes conséquences. On a vu qu'il y avait différents types de mémoire, donc les différents problèmes dans le cerveau, ça peut causer différents types de problèmes de mémoire. Ça va être très difficile de généraliser, parce qu'en fait une lésion cérébrale, ça peut être à plein d'endroits dans le cerveau. Quand il y a eu un choc ou quelque chose comme ça, ça va pas être forcément au même endroit pour tout le monde. Et donc les conséquences sur la mémoire, elles vont énormément dépendre de quelle zone du cerveau ou quel réseau ensemble de neurones est affecté. On a tous une mémoire différente, et donc la lésion cérébrale, ça peut impacter différemment.
Moi, j'allais dire quelles sont les principales fonctions cognitives qui vont être de bien mémoriser.
Si on commence au tout début, on peut parler de la perception, parce que pour mémoriser ce que je suis en train de vivre là, il faut que j'arrive à voir mon environnement, à entendre mon environnement. Donc ça, le premier, ça va être la perception. Et après, il faut aussi que j'y porte attention, parce que si je suis complètement perdue dans mes pensées, sans doute que je vais moins bien réussir à mémoriser ce qui est en train de se passer. Donc il y a la perception, l'attention. Et après, au moment de... Peut-être que j'en oublierai, mais au moment de rappeler le souvenir, souvent on le raconte. Et donc si on a plus difficilement accès aux mots, des fois c'est plus dur de transmettre nos souvenirs si on a du mal à parler. Donc le langage est aussi impliqué. Après on peut passer par d'autres voies comme le dessin ou quoi, mais je dirais que c'est surtout ces fonctions cognitives là.
Je pense que l'attention, tu l'avais déjà dit tout à l'heure, mais vraiment l'attention qu'on porte aux choses est aussi un facteur qui est quand même assez central, parce que comme tu le disais, la perception, on peut tous être là présent notre esprit divague et qu'on pense à d'autres choses et que notre attention elle est sur autre chose que ce qui est en train de se passer là, on mémorisera pas forcément l'information.
Existe-t-il des techniques efficaces pour améliorer ou réparer la mémoire, en particulier quand elle est victime d'une lésion cérébrale?
C'est une grande question. Il y a plein de recherches qui ont lieu pour essayer de comprendre comment on peut faire pour dépasser les problèmes de mémoire quand il y en a. Et donc des fois, c'est ce qu'on va appeler par exemple des ateliers cognitifs ou des ateliers mémoire, tout simplement, pour essayer d'entraîner la mémoire. Et en fait, aujourd'hui, il y a un peu deux sortes de... Donc c'est des exercices qu'on fait pour entraîner sa mémoire, et il y a un peu deux sortes d'exercices. Il y a certains exercices où on va... En fait, ça va être pour essayer de restaurer la mémoire qu'on avait avant. Donc là, c'est vraiment des exercices de mémoire. Je m'entraîne à encoder, je m'entraîne à récupérer un souvenir, etc. Donc, comme je m'entraîne à faire du vélo pour savoir mieux en faire, j'entraîne ma mémoire pour pouvoir... le fait de l'utiliser souvent, ça fait qu'elle peut être plus efficace. Mais il y a aussi un autre type d'exercice où là, on va plutôt essayer de s'intéresser aux stratégies. En fait, on va dire, d'accord, ma mémoire, elle a changé par rapport à avant. Elle ne marche plus pareil. Je vais essayer de comprendre comment elle marche pour essayer de mettre en place les stratégies qui vont faire que ce sera bien pour moi au quotidien. Donc avant, je n'avais pas besoin de noter. Mais maintenant, je sais que quand il y a trop d'informations, j'oublie. Et du coup, un des exercices, ça va être d'apprendre à détecter, là, ça va faire trop. Je vais mettre en place une stratégie pour bien retenir. Donc, ça peut être, par exemple, noter, ou alors ça peut être, je sais qu'il faut que je porte attention à cette chose-là parce qu'elle est importante, et si je n'y passe pas du temps, je vais l'oublier. Et donc ça, c'est des exercices qui sont basés sur les stratégies et apprendre à se connaître soi, parce que tout le monde fonctionne différemment, comme on le disait avant.
Qu'est-ce qui, dans la fonction dont on mémorise, est de l'inné et de l'acquis? Est-ce que c'est que de l'acquis ou pas ?
Non, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit que de l'acquis du tout. Je pense que ce soit de la mémoire ou de tout ce qu'on est, globalement, en tant qu'humain qui nous développons, il y a vraiment des facteurs qui sont liés à l'inné, à notre patrimoine génétique, entre guillemets, à là d'où on vient, à ce que nous ont transmis nos parents comme gènes. Et donc ça, c'est plutôt de l'ordre de quelque chose d'inné et qui peut même se transmettre plutôt de génération en génération. Mais il y a aussi toute une part et une grande part d'acquis qui fait qu'on va se développer d'une certaine manière ou d'une autre en fonction de l'environnement dans lequel on est, des possibilités qu'on nous donne, qu'on nous offre de découvrir des choses ou d'autres, d'apprendre des choses ou d'autres, etc. Donc il y a vraiment, il faut penser le développement et la mémoire et la manière dont on réagit au monde comme vraiment une interaction entre comment on est avec notre biologie interne, j'ai envie de dire, et puis ce que l'on fait à partir de cette base biologique dans toute notre vie qui peut moduler complètement tout.
Avant d'être animatrice au GEM, j'ai été longtemps auxiliaire de vie et j'ai pu constater des progrès en fait chez des personnes qui avaient eu des un accident ou un AVC. Et y a notamment une personne chez qui j'étais auxiliaire de vie il y a 10 ans, que j'ai retrouvée ensuite en venant au GEM il y a 3 ans. Et j'ai vu des progrès incroyables. C'est-à-dire que cette personne a toujours des gros problèmes de mémoire immédiate, mais arrive quand même à se souvenir d'événements, notamment quand c'est marqué émotionnellement, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est fou, quoi. Je me dis, quelque part, il y a un espoir. Le cerveau, il a quand même l'air d'avoir une capacité de réparation partielle, en tout cas, mais assez impressionnante.
C'est ce qu'on va appeler la plasticité cérébrale. Donc, en fait, c'est la notion que notre cerveau, il est malléable. En fait, quand on est adulte, on ne va plus avoir des nouveaux neurones. Très, très peu. Mais par contre, nos neurones, ils sont tous connectés entre eux. Et plus on les entraîne, c'est ça, plus on les entraîne, plus ils font des connexions entre eux efficaces, qui marchent bien. Et du coup, effectivement, quand on a l'habitude de faire quelque chose, quand on s'entraîne à une activité, et ben les connexions, elles sont de plus en plus efficaces. Et en fait, souvent, on fait le parallèle avec l'autoroute ou un chemin sinueux. C'est-à-dire que quand j'ai l'habitude d'aller récupérer un souvenir ou quand j'ai l'habitude d'effectuer une action, et bien là, c'est comme si c'était une autoroute. L'information dans mon cerveau, elle va très, très vite. Les chemins, ils sont très bien tracés. C'est facile. Par contre, quand c'est « Oh là là, ça, c'est une information que j'avais il y a 5 ans, mais j'en ai plus reparlé. » Ah ben là, le chemin, je l'ai perdu. C'est une randonnée très pentue, avec plein de cailloux. Et peut-être que j'arriverai à le retrouver, mais les connexions, elles ne sont pas du tout optimales. Et donc, ça va être laborieux pour réussir à faire cette action ou pour retrouver ce souvenir. Et donc, la plasticité cérébrale, effectivement, elle permet à notre cerveau de récupérer totalement.
Comment faire on a un oubli de mémoire, et comment faire avec une personne qui refuse d'accepter cet oubli de mémoire, qui refuse ou qui n'est pas en capacité de l'accepter? Ça, c'est quelque chose qui est super compliqué et infernal à vivre, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas l'accepter, le tolérer, le comprendre.
En fait, ce qui est très très compliqué pour nous tous, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. On a tous notre manière de voir le monde qui est dépendante de notre propre manière de fonctionner à nous. Et donc, je m'imagine la manière dont vous mémorisez par rapport à comment je mémorise moi. Et donc, moi, je vais vous faire le parallèle avec ce que je connais dans ma vie quotidienne avec mes enfants, à qui, des fois, je fais apprendre des leçons. Et donc, ils essayent d'apprendre des choses, et dans les quelques instants qui vont suivre, ils vont me rappeler la leçon qu'ils viennent d'apprendre, parce qu'ils s'en souviennent. Et plusieurs jours plus tard, quand je leur dis « Alors, tu te souviens de tel truc ?» Ils s'en souviennent pas. Puisque moi, je m'en souviens, je pourrais avoir tendance à me dire « Mais si, tu t'en souviens. Bien sûr que tu t'en souviens, puisque moi, je m'en souviens en l'occurrence. » Mais en fait, non, ils s'en souviennent pas parce qu'ils l'ont perdu. Et donc, c'est très difficile pour quelqu'un qui observe un autre, qui en l'occurrence à des troubles de mémoire, à des difficultés à tout mémoriser, de se rendre compte de ce que c'est. Et donc ensuite, bah, une fois qu'on a... Je pense qu'il faut que la personne-là arrive à accepter aussi, peut-être. Il y a peut-être aussi une question d'affect, d'acceptation. Il y a la question d'être en capacité de se représenter ce que l'autre vit. Et ça, c'est, à mon avis, déjà hyper difficile. Et en plus, au niveau affectif, d'accepter que l'autre n'a plus la même mémoire qu'il avait avant ou n'a pas la même que moi et donc est différent, etc. C'est une question qui est délicate, hein, qui est très délicate.
Merci à toutes les deux pour cette interview et cette rencontre. Avez-vous quelque chose à ajouter ou un message à faire passer ?
Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est merci à vous, vraiment. J'ai passé un bon moment, j'ai pas vu du tout le temps passer. C'est déjà la fin et c'est super. J'ai vraiment apprécié les interactions avec vous. Si j'avais un message à faire passer, j'aimerais bien revenir sur... nos échanges de tout à l'heure et de garder en tête que la diversité est une richesse. Ce serait juste ça que j'aimerais dire aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et moi, je me joins à Sophie pour merci beaucoup pour votre invitation. C'était vraiment un plaisir d'être là. Et je m'accorderai aussi sur le message, sur le fait que des fois, oui, il peut y avoir des problèmes de mémoire, mais que... on ne se résume pas à ces problèmes de mémoire, qu'il y a plein d'autres... au final, tout le monde a des points forts et des points faibles et des points forts. Donc, au-delà de ça, il y a des solutions un peu pour compenser, mais aussi se dire, bon, bah, OK, c'est pas grave. Ça, c'est moins mon domaine, mais j'ai tout plein d'autres domaines où ça, c'est plus mon domaine. Et ça, c'est vraiment important aussi, je pense.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site lavoixdesgens.fr. C'était Sans mots de tête, la web radio sans prise de tête.
Sans mots de tête,
la web radio du GEM.
Avec la radio, ça nous a fait du bien.
Sans mots de tête, la web radio sans prise de tête.